Bonsoir Michel-Pierre, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ahlan wa sahlan, comme on a appris à dire en Égypte, c'est-à-dire bienvenue. Bienvenue, vous êtes chez vous, monsieur Michel-Pierre.
Merci.
Si besoin de le dire, vous avez eu une période dans votre large carrière qu'on dit horizontale, que vous-même dites horizontale, faites de voyages.
Pas de confusion sur le mot horizontal.
Dans l'espace autant que dans la hiérarchie, on va dire. Et donc, vous avez eu une période bordelaise, puisque vous avez été chargé des affaires culturelles à la ville de Bordeaux, et je pense que tout le monde s'en souvient ici. Mais ce n'est qu'un épisode dans votre vie extrêmement diverse et riche, au point qu'on se demande parfois comment vous faites si vous n'avez pas plusieurs vies ou s'il n'y a pas plusieurs Michel-Pierre.
Bah, comme ça apparaît comme un pseudonyme, on peut se permettre.
Bien donc. Oui, vous en jouez.
Éventuellement.
Et donc ce soir, nous sommes là pour ce livre sur le Sahara, Sahara, le grand récit, hein, qui est paru donc chez Belin, et qui est véritablement une somme, en même temps qu'un passionnant roman, une épopée parfois aussi une critique assez sévère, hein, de la conquête occidentale, et aussi un livre qui renferme une mine vraiment de renseignements, de connaissances. Une bibliographie convoquée pour chaque chapitre d'une manière extrêmement précise et rigoureuse, à la manière de l'universitaire que vous êtes, hein, agrégé d'histoire, auteur d'une thèse sur le bagne, c'est bien ça, avec Michel Perrault, mais ça fait longtemps déjà.
Ça fait longtemps.
Et aussi passionné de bande dessinée. Là encore, l'aventure avec Corto Maltese. Et là aussi, vous avez des projets, mais vous nous en parlerez tout à l'heure. Donc, il s'agit aujourd'hui du désert, de son histoire, et je pense que c'est une espèce de pavé qui convaincra, sans le leur jeter à la tête, bien sûr, ceux qui osent dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Le Sahara, a fortiori. Et donc, là, nous découvrons à quel point l'histoire de ce désert, entre guillemets, est longue, mouvementée, riche, complexe aussi. Et toute cette complexité, vous arrivez à la parcourir avec beaucoup de clarté et beaucoup de plaisir pour le lecteur. C'est donc un récit littéraire, et en même temps, une somme historique, et en même temps, un manuel pédagogique presque, puisque vous avez aussi publié une dizaine de titres dans la collection Découverte Gallimard sur l'histoire du XXe siècle, entre autres. Je ne vais pas tout citer, puisque nous sommes là aujourd'hui pour ce passionnant livre sur le Sahara, qui en plus est illustré de nombreuses images, et c'est pourquoi nous avons ce soir un écran, et donc Michel-Pierre commentera beaucoup d'images. Beaucoup de ces photos ont été prises par lui, ou bien sûr elles viennent de l'AFP ou d'autres collections historiques ou particulières. Donc partons du mot Sahara, c'est d'ailleurs votre point de départ aussi. J'ai dit tout à l'heure Ahlan wa Sahlan, et Sahlan, Sah, peut-être on reconnaît là aussi cette racine Sah qu'on trouve dans Sahel et qu'on trouve dans Sahara, et qui évoque donc l'espace, un espace sans limite. Est-ce que c'est ça, le
oui.
Sahara?
Oui, c'est ça. Merci d'abord d'être là. Effectivement, comme vous dites, c'est un long récit. Ça a été un grand récit. J'espère pour le lecteur, c'est pas trop long. Pour moi, en tout cas, c'est aussi une longue histoire, puisque j'ai eu la première idée de ce livre lors d'un premier séjour à l'ambassade de France à Alger. Dans les années, à la fin des années 1980. Et puis, continuant à me rendre dans le Sahara, j'ai fini par en faire ce livre. Mais ce qui m'intéressait comme historien, par rapport à un espace qui est essentiellement vu comme une géographie, c'est d'en restituer l'histoire. On a un peu trop tendance, je le montrais peut-être à travers quelques documents, à oublier. Alors, vous disiez fort justement que l'Afrique a une histoire. On se souvient tous d'une certaine déclaration à Dakar, par un ancien président qui était quand même l'une des grandes déclarations pour le moins bizarroïdes, pour ne pas dire autre chose, de la période contemporaine. Donc si l'Afrique a une histoire, le Sahara bien sûr en a une aussi. Et ce désert a été tout le temps traversé, parcouru, a été habité à une période finalement relativement récente à l'échelle de l'histoire. Et aujourd'hui, nous savons très bien comment il est dans l'actualité. Donc l'idée, c'était de tenter quelque chose. Parce que Il y a des aides des historiens, des ethnologues, des spécialistes de telle ou telle partie du Sahara. Ce que j'ai voulu tenter, qui était effectivement, je pense qu'il y a, j'espère ne pas avoir fait trop d'approximations ou trop de synthèses surtout, c'était de tenter de montrer cet espace, je le montre simplement sur cette carte, vous voyez, c'est un espace géographique, comme vous le voyez, qui part des rivages de la Mauritanie jusqu'à la mer Rouge, au moins jusqu'au Nil. Et puis qui commence avec le Sahara nord, les bords de l'Atlas algérien et marocain jusqu'au Sahel du Niger, avec les pays que l'on voit ici. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment l'écriture du livre, ma question. Elle se résume en deux images, en quelque sorte. Celle-ci qui est composée de trois... Je parle d'images, mais je ferais mieux de parler d'imagerie. Oui. Ce sont des clichés. Hein. Le Sahara, dans votre esprit, dans le mien longtemps et chez beaucoup de personnes, eh bien, c'est d'abord les Touaregs et pratiquement uniquement les Touaregs, comme si c'était les seuls à habiter le Sahara. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Nouakchott, en Mauritanie, et ça vexait beaucoup les morts. Qui, eux, quand même, ont une vie aussi en Mauritanie, au Sahara, de voir que nous autres, en Occident, on ne considérait que les Touaregs. Et puis la deuxième image, c'est le 4x4 qui est en haut de ces clichés, qui est le 4x4 Volkswagen Touareg. Alors vous le savez sans doute, chez Volkswagen aujourd'hui, on se mord les doigts d'avoir appelé un 4x4 Touareg parce que c'est moins à la mode qu'avant. Et puisque l'image a un peu changé. Et puis, autre cliché, la cérémonie du thé, qui est pour partie fabriquée avec les voyages touristiques, puisque la diffusion du thé au Sahara, pour reprendre le titre d'un roman connu, est relativement récente à l'échelle de l'histoire. Les premières cargaisons de thé arrivent au XVIIIe siècle sur les côtes marocaines et se diffusent que très lentement à l'intérieur de l'espace saharien. Alors, on a le... Alors, pour certains et certaines d'entre eux, j'ai pas pu m'empêcher de montrer une Mehari. Le nom aussi, ça veut dire quelque chose. Il y avait, pour pas laisser tout au firmamonde, il y a aussi la Renault Mehari pendant 20 ans. Bon, cet imaginaire saharien. Et puis on arrive à ça. Et c'est ça la question. Comment on passe de la Mehari, de l'un des endroits les plus touristiquement tranquilles du monde, à cet univers le plus récent?
Oui, j'ai oublié de dire à quel point vos sources aussi étaient non seulement précises et rigoureuses, mais aussi variées, parce que vous exploitez même, justement, à propos de ce changement d'image et ce renversement, finalement, de valeurs dans l'imaginaire des Touaregs, des Iforas en particulier. Vous utilisez ce guide touristique des années 80 qui montre comme une curiosité intéressante de s'arrêter près d'un campement Iforas. Donc ça, c'est dans les années 80. Évidemment, 10 ans après, avec la rébellion dans la même région par les mêmes Iforas, les choses ont changé et c'est plutôt extrêmement dangereux. Enfin, c'est présenté en tout cas comme extrêmement dangereux d'y aller sans escorte ou même d'y aller tout court.
Ça peut être pire d'être avec une escorte.
Oui, peut-être.
Mais c'est vrai que c'est toujours des questions pour l'historien. Comment est-ce que pendant des décennies, puisque vous évoquiez les guides touristiques, j'ai plongé justement dans une histoire touristique du Sahara pour m'apercevoir, en regardant par exemple le guide Johan, qui était les guides qui existaient avant les guides Hachette au début du XXe siècle, où déjà les oasis du sud algérien étaient parcourues par les touristes. Et on a des publicités dans le guide Johan de 1904 pour des hôtels qui précisent qu'ils ont une pièce pour le développement des photographies, pour qui veut la chambre noire pour développer les photos. Et il est même précisé pour les touristes qui veulent descendre dans le Mzab, qui peuvent le faire, mais qu'il ne faut pas compter sur l'armée s'ils ont besoin d'être dépannés par rapport au fiacre, enfin au fiacre, au coche, ou voire aux premières voitures. Donc on a une longue histoire du tourisme saharien jusqu'à une période relativement récente. Et il suffit, enfin je consacre aussi une part, bien sûr, au sujet, il suffit de penser au Paris-Dakar. À un moment, le Sahara était le bac à sable de l'Occident. Et on n'imaginait pas qu'il puisse un jour s'interrompre. Du reste, il y a toute une histoire. C'est un sujet historique, le Paris-Dakar. Parce que étudier les différents itinéraires du Paris-Dakar, c'est raconter la géopolitique du Sahara pendant quelques années.
Oui, c'est le chapitre 10 qui est particulièrement intéressant parce qu'il fait la charnière, en fait, avec l'époque contemporaine. Le Sahara éclaté, c'est le titre de votre chapitre 10. Et la dernière partie, c'est justement le Paris-Dakar, une aventure indécente, point d'interrogation.
Oui, ça, on en parlera peut-être, mais au moins la question méritait d'être posée. Quoi. Voilà, donc les pays que j'ai tenté de parcourir dans le livre, qui constituent le Sahara d'aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut s'interroger sur la délimitation géographique aussi du sujet. Je traite aussi, bien sûr, la bordure sahélienne du Sahara. Pour moi, ça fait partie quand même du même domaine. On pouvait aussi, j'aurais pu mettre sur cette carte ce pays que je crois que vous connaissez aussi bien, qui est le Burkina Faso, dans la mesure où le nord du Burkina Faso, aujourd'hui, avec le nombre de migrants venus de cette zone du désert, avec l'aridité croissante, le nord du Burkina appartient vraiment aujourd'hui à l'ensemble Sahara sahélien.
Oui, du point de vue humain. Alors, vous dites aussi dès le début que le Sahara est un espace d'histoire, que la géographie explique, d'où ces cartes d'ailleurs, qui sont très éclairantes et qui parsèment l'ouvrage. Et il se pose bien sûr dans l'histoire, en tout cas moderne, du Sahara, la question cruciale des frontières, qui est quand même aussi un enjeu, une cause, une conséquence, enfin, qui continue finalement à diviser les États. Et les peuples.
Oui, je me suis posé des questions sur la formation, la constitution et le tracé des frontières du Sahara. Et au départ, j'allais dire un peu comme chacune ou chacun d'entre nous, je croyais aussi que les frontières ont été tracées un peu à la hache, un peu n'importe comment, par les différents colonisateurs, qu'il y a eu une répartition entre la France et la Grande-Bretagne, pour ne citer que ces deux pays, mais aussi avec l'Italie faisant la conquête de la Libye et avec le Sahara espagnol, et qu'à l'intérieur des domaines coloniaux des uns et des autres, on avait séparé, par exemple, l'Algérie et le Soudan, l'Afrique occidentale française, le Tchad appartenant à l'AEF. Comment ces frontières se sont constituées? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, en tout cas, pour le domaine français, qui est le plus important sur cette carte, hein, le domaine français du Sahara, c'était l'Algérie du Sud, peu à peu conquise, Maroc, Tunisie, protectorat également, et puis l'AOF avec la Mauritanie, Niger, Mali, pour parler des pays d'aujourd'hui, et le Tchad rattaché à l'AEF. Alors comment on a séparé tout ça? Donc j'ai repris un peu les archives, les textes, pour m'apercevoir du reste que les relations étaient déjà difficiles entre Français. On résume tout ça parfois en parlant d'empire colonial, en oubliant complètement que ces pays, sur lesquels flottait quand même le drapeau français, relevaient de ministères différents. Alors quand on connaît l'administration française, on sait déjà encore aujourd'hui que quand les choses appartiennent à des ministères différents, rien n'est simple. Et à l'intérieur de la colonisation française, c'était le cas. N'oubliez pas, l'Algérie, c'était la France, donc c'était le ministère de l'Intérieur. Donc les troupes qui étaient dans le Sahara algérien, c'était le ministère de la guerre. Par contre, Maroc et Tunisie dépendaient du ministère des Affaires étrangères, des protectorats. L'AOF et l'AEF dépendaient, quant à eux, du ministère des colonies, stricto sensu. Ce qui fait que ce n'étaient pas les mêmes officiers, pas les mêmes soldats. C'était même parfois, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais c'était même parfois pas la même origine sociale. Par exemple, les officiers méharistes, de ce que j'ai pu voir en archive, les officiers méharistes des compagnies méharistes du Sahara algérien étaient assez souvent, pas de manière majoritaire, il ne faut pas exagérer, mais étaient assez souvent originaires de familles aristocratiques françaises. C'est-à-dire pour tout ce monde aristocratique, avec la République qui s'affirme à la fin des années 1880, il est difficile de servir la République, sauf dans l'armée. Donc une partie de ces officiers que je croisais dans les compagnies méharistes appartiennent à des familles nobles ou d'essence aristocratique qui retrouvaient de plus, par rapport aux tribus, entre guillemets, pour utiliser le mot qu'ils avaient administré, des concepts féodaux, des concepts qui appartenaient à leur univers mental, alors que les officiers des compagnies dites nomades au Soudan et au Niger étaient d'une extraction sociale beaucoup plus modeste. C'est-à-dire, aller commander une compagnie méhariste au Sahara, c'était chic. Aller commander un groupe nomade au Soudan ou au Niger, ça l'était déjà beaucoup moins. Donc tout ça faisait des tensions à l'intérieur du même univers, et la tension se retrouve dans le tracé des frontières. Mais ces frontières, au contraire de ce qu'on peut croire, n'ont pas été tracées vraiment n'importe comment. Elles ont tenu compte, si vous regardez le sud de l'Algérie, enfin le sud du Sahara algérien, elles tiennent compte des espaces de nomadisation des confédérations Touareg, en tout cas pour le centre de l'Algérie. Donc elles ne sont pas tracées, même si elles sont régulières, elles ne sont pas tracées de manière totalement absurde. Elles passent parfois à travers des zones vraiment désertiques, donc pourquoi pas les faire de manière rectiligne, ce qui était une logique, mais elles tiennent compte en général des parcours des groupes ethniques, comme on disait à l'époque. Il y a même un petit exemple qui est particulièrement parlant. Si vous regardez sur la carte vers la Mauritanie, vous avez une frontière qui est une sorte d'escalier. Vous voyez, entre le nord, la frontière de la Mauritanie avec l'Algérie, vers Tindouf, et puis vous voyez cette frontière qui descend petit à petit jusqu'à Ouadibou. On imagine très bien que par rapport au Sahara espagnol, les Espagnols qui étaient installés dans les ports, sur la côte, on leur a donné un interland, on leur a donné une partie de l'intérieur du territoire, je dis « on », c'est-à-dire la France, Paris et Madrid. Mais si vous regardez bien, ces marches d'escalier ne sont pas toujours très droites. Il y a vers là où vous avez le marqué mur de séparation, vous avez comme une courbe que l'on a ici, une espèce de petite courbe et non pas une marche droite. Eh bien, elle vient du fait que dans ce tracé de frontière qui a mis en Mauritanie cette portion de territoire, ce sont les salines d'Idjil. Et ces salines étaient utilisées par les groupes de la Drar mauritanien, c'est-à-dire les nomades, qui faisaient passer dans ces zones de sel leurs troupeaux et qui en avaient besoin. Donc cette frontière, elle n'est pas rectiligne, bon exemple de parfois se méfier des lieux communs. Elle tient absolument compte de la présence de ces salines qui étaient nécessaires aux tribus de la Drar qui en avaient besoin par rapport à la nomadisation de leurs troupeaux. Donc je veux simplement dire que ces frontières se sont construites de manière beaucoup plus logique qu'on ne le dit parfois, et que même si le monde Touareg a été séparé, il n'a jamais été uni. La confédération, enfin pour ne pas trop en parler, mais les Touaregs du Hoggar ou les Touaregs du Tazili Nadjer ne sont pas les mêmes de ceux de l'Aïr ou de ceux des Ifora dont vous parlez. Alors il y a quand même un cas, et il est important par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, et je pense en particulier au groupe Boko Haram, où cette constitution des frontières a été un partage colonial quelque part un peu absurde. C'est la frontière entre le Niger et le Nigeria, dans la zone actuelle, justement, où Boko Haram se trouve. La France et l'Angleterre se sont mis d'accord pour descendre la frontière que vous voyez entre le Niger et le Nigeria. Vous voyez qu'elle, si je la pousse vers l'est, elle arrive au lac Tchad. Et en fait, à l'origine, la frontière entre la France, enfin le domaine français et le domaine britannique, était beaucoup plus au nord. Et les Britanniques ont accepté que la frontière entre le Niger et leur Nigeria, en quelque sorte, soit déplacée vers le sud, ce qui intéressait la France pour avoir un maximum, avec son domaine déjà du Tchad, de rives autour du lac Tchad. Et les Anglais ont accepté cette modification de frontière au début du XXe siècle en échange de droits de pêche sur la région de Terre-Neuve. C'est-à-dire que vous avez une modification de frontière qui aujourd'hui, qui a coupé des univers. Hein, on va pas parler de l'émirat du Borno, du Sokoto, qui sont les zones de Boko Haram aujourd'hui, qui se sont trouvées séparées entre les deux pays et qui ont des conséquences aujourd'hui. Et on a fait la modification de ces frontières en échange de droits de pêche sur Terre-Neuve, qui sont quand même un univers géographique assez loin du Sahara.
Oui, c'est intéressant de voir justement comment les situations, par des enjeux, des trocs finalement géopolitiques, ont eu des conséquences qui, encore aujourd'hui, ont des répercussions extrêmement graves, tragiques. Par exemple aussi la guerre d'Algérie, vous dites très bien que cette frontière de l'Algérie au Sahara a été remise en question par la France, enfin que la guerre d'Algérie s'est prolongée peut-être d'un an à cause de ce problème du sud algérien du Sahara.
Oui, c'est le général de Gaulle, dans les discussions mettant fin à la guerre d'Algérie, il y avait trois choses qui étaient essentielles pour de Gaulle à l'intérieur du Sahara. C'était bien sûr de garder une forme de maîtrise des richesses en hydrocarbures, hein, qu'on découvre à partir de 1956. C'était les expériences atomiques. Et tout ce qui touchait aux fusées à partir d'Amaguir. Donc, tant que les autorités algériennes, qui au début des discussions d'Évian ne veulent absolument pas entendre parler de donner des droits spécifiques à la France dans ces trois domaines, fait que on estime, enfin pas seulement moi, mais bien sûr d'autres historiens de la question, que la guerre d'Algérie a peut-être duré au moins 6 mois de plus parce que on trouvait pas d'accord sur le Sahara. Et à partir du moment où les négociateurs algériens ont accepté, par des accords du reste plus ou moins secrets liés à ce déviant, pour des protocoles rajoutés aux accords déviants, où, comme vous le savez, les expériences nucléaires ont duré après l'indépendance de l'Algérie, ainsi que celle des fusées, sans parler, là on n'en parlera pas ce soir, de choses plus douteuses du côté des armes bactériologiques. Donc il y a même eu cette tentative, mais là, de l'Office des régions sahariennes, l'Office commun des régions sahariennes, qui a été une petite idée comme ça de rassembler l'ensemble du Sahara qui aurait été laissé à la France, l'Algérie indépendante gardant le Nord. Évidemment, tout ça ne tenait pas totalement debout et tout le monde est arrivé à retrouver un peu la raison. Mais la guerre d'Algérie s'est sans doute prolongée, c'est vrai, de plusieurs mois à cause de la question saharienne, de la volonté de Gaulle de garder intact ces trois priorités pour lui.
Oui, ce terrain extrêmement intéressant pour l'armée et pour la puissance de la France, en fait.
Oui, alors ce qui est amusant pour le, si on peut dire, pour les essais nucléaires, par exemple, c'est pas mentionné comme ça dans les protocoles autour d'Évian, c'est-à-dire qu'il est prévu que la France peut se déplacer, survoler, utiliser, voilà, une liberté de circulation qu'elle a retrouvée récemment, du reste, au-dessus du Sahara avec l'opération Serval. Mais après, bon, comme je le montre aussi, mais là je vais pas faire un commentaire de la carte, mais ce que j'ai voulu faire dans cette carte aussi, c'est de montrer les différentes zones de conflits aujourd'hui et leurs racines, alors y compris depuis la guerre des sables de 1963 entre l'Algérie et le Maroc. Ce que je veux souligner aussi dans le livre, c'est de ne jamais oublier le Maroc dans la question ou dans les questions sahariennes d'aujourd'hui. Le Sahara, le Maroc a une longue histoire au Sahara. Il faut jamais oublier que à Tombouctou, on a longtemps fait la prière du vendredi au nom du sultan de Marrakech. Que l'influence marocaine, et on le voit aujourd'hui d'un point de vue diplomatique, est encore présente dans cette zone. Et le Maroc a toujours souhaité une modification des frontières avec l'Algérie, n'a jamais accepté l'indépendance du Sahara espagnol, d'où la marche verte, et jamais le Maroc, même si les troupes de l'ONU essayent de préparer encore aujourd'hui un Sahara occidental, ou au moins un référendum. L'ONU aujourd'hui, qui est présente dans cette zone, ce que j'ai tenté aussi de montrer dans cette carte, dans trois pays différents, c'est-à-dire sur la zone du Sahara occidental au Mali et au Darfour. Oui, j'ai pas pu m'empêcher avec l'image du haut que les États-Unis sont un peu ensablés dans cette partie du monde. On se fait parfois des petits plaisirs comme ça. Mais voilà, trois images récentes qui sont frappantes du reste de l'intervention. Ça me semble symboliser beaucoup de choses. Alors soit ils sont ensablés, soit ils sont enfermés dans les blindés. C'est trois photos différentes. Hein, l'une au Sahara espagnol, l'autre au Darfour et la troisième en bas récemment au Mali avec des casques bleus hollandais qui sont bloqués dans leurs petits blocos, les autres dans leurs véhicules et les troisièmes ensablés. Donc la présence de l'ONU est certainement utile, mais elle n'est peut-être pas complètement déterminante.
Oui, vous racontez par exemple qu'en 1962 paraît un livre d'Alain Perfit qui suggère même une république indépendante du Sahara.
Oui, c'est dans le cadre de ces discussions des accords d'Évian, c'est vrai que Perfit fait un ensemble d'articles dans Le Monde, et puis ensuite un bouquin où la question faut-il séparer l'Algérie, quoi, où vraiment il y a une réflexion où on aurait laissé une Algérie en quelque sorte indépendante dans le Nord et une organisation commune des régions sahariennes qui aurait rassemblé le Sahara algérien, le Soudan, le Niger, etc. C'est une histoire assez importante parce que une partie des groupes Touareg, puisque vous parliez de l'Adrar des Ifora, a cru à un moment à cette histoire en se disant finalement les Français, on s'était habitués depuis la conquête et on préférait dans les groupes Touareg du début des années 60, on préférait garder l'autorité française que d'avoir à dépendre des autorités du Sud. Bon, en l'occurrence, pour le Mali, que vous connaissez bien, le monde Bambara et autres, dont on n'acceptait absolument pas la domination ou le contrôle politique, considérant que c'était ces gens du Sud, des gens qu'on avait pendant des siècles été pillés pour l'esclavage et qui, tout d'un coup, allaient vous commander. De plus, pour terminer sur ce point, ce que je tentais aussi de montrer dans le livre, c'est que dans les grandes familles Touareg, il n'était pas question de mettre ses enfants à l'école du colonisateur. Alors on envoyait éventuellement un enfant qu'on prenait chez un esclave, hein, un enfant d'une famille d'esclaves en disant que c'était le sien, puis ça satisfait le commandant de cercle français qui comprenait tout, mais enfin qui disait rien. Mais simplement, ce qui arrive au moment des indépendances, c'est que autant les populations, je prends l'exemple du Soudan devenu Mali, c'est que les populations, disons, noires de la proximité du Niger, bien, étaient allées à l'école et donc avaient une formation pour le moment de l'indépendance, ce qu'aucun véritable cadre... Il y avait une inexistence totale de cadre Touareg au moment de l'indépendance. Donc ils se sont trouvés démunis par rapport à cette situation. Ces moments de la colonisation pèsent encore évidemment aujourd'hui.
Tout à fait. Et il y a aussi ces populations noires qui sont allées à l'école, elles n'étaient pas dupes non plus, puisqu'on appelait l'école des otages. Mais c'est vrai que la politique coloniale de la France a formé des cadres, a également visé une assimilation culturelle, alors que, par exemple, la colonisation anglaise a fait autre chose.
Oui, pour le Sahara, l'assimilation n'a jamais été poussée très loin.
Plus au sud, la Côte d'Ivoire, par exemple.
Oui, vers la Côte d'Ivoire. Mais là, il faut, pour reprendre l'expression utilisée à l'époque, nous sommes quand même sur des populations moléculaires. Ce sont des populations extrêmement faibles. Donc, on ne va pas tenter d'assimiler ces populations qui, tout au plus, alors, dans le Hoggar, c'est quelques milliers de personnes. Dans le Tal-Sidi-Nagger, pour ne parler que de l'Algérie, c'est aussi quelques milliers de personnes qu'on laisse dans un état de, même encore après des décennies. Ce qui m'a frappé en regardant un certain nombre d'archives, c'est des témoignages d'officiers qui arrivent au Sahara dans les années, disons, 1910 ou avant la Première Guerre mondiale et qui mentionnent quand même la misère qui existe dans cette partie du monde. Et en 1945-46, cette même misère est toujours présente. On retrouve un article de Jean Mallory, qu'on connaît plutôt comme spécialiste du Grand Nord, mais qui a commencé sa vie scientifique au Hoggar. J'ai retrouvé dans un article des Annales un témoignage de Jean Mallory montrant la malnutrition et la misère de ce monde Touareg en 1945, un monde que nous avions mythifié, comme je le disais, avec Charles de Foucault ou avec quelques images, et que la présence coloniale n'a pas considérablement amélioré dans ses conditions de vie, quoi.
Oui. Vous montrez bien d'ailleurs comment cette aventure coloniale a été sanglante. Et justement, en citant des poèmes traduits par Charles de Foucault, hein, qui disent la douleur, l'humiliation, mais aussi la fierté, hein, des Touaregs, même quand ils ont été massacrés, vaincus.
Oui,
il y a de très, très belles pages.
La fierté, la résignation, il y a une bataille qui va opposer les troupes françaises, enfin un groupe de quelques dizaines d'hommes, et puis la noblesse Touareg au nord-est, nord-ouest pardon, de Tamanrasset, à Tite, là, ce qu'on appelle la bataille du Tite, et où les armes françaises vont décimer la noblesse Touareg. C'est-à-dire à peu près sur 300 nobles Touareg qui combattent face à la France, il y a plus du tiers qui reste qui meurt. Donc c'est une saignée dont la noblesse du Hogard ne se remettra jamais. Donc ils vont se résigner à la présence française, qui va s'appuyer assez intelligemment sur les nobles encore survivants, et ce qui fait que le Hogard va être, entre guillemets, comme on le disait à l'époque, pacifié par ce choc de cette bataille, avec une noblesse qui va plus bouger après. Donc il y a une forme de résignation qui s'installe, qui n'empêche pas une grande révolte en 1916-1917. C'est une révolte qui va rester dans la mémoire de tout le monde Touareg et qui existe encore de nos jours. Mais c'est vrai que la répression de ces révoltes a été absolument terrible dans cette partie du Niger, dans cette partie aussi, alors à d'autres moments en Mauritanie. Et parfois, et là aussi ça rejoint l'histoire d'aujourd'hui, parfois on a utilisé des vieilles haines ancestrales entre le monde Toubou. Alors le monde Toubou, c'est plutôt le monde noir nomade du Tchad, et le monde Touareg. Depuis des siècles, évidemment, on se radiait réciproquement, y compris à travers le désert du Ténéré. La France, dans sa conquête coloniale, à utiliser cette hostilité, soit les Touaregs contre les Toubous, essentiellement du reste pour établir l'ordre dans le Tibesti dans les années 1920-1930. Mais ce long conflit, cette longue animosité propagée, véhiculée, animée, revigorée par la France, elle se retrouve encore de nos jours. C'est-à-dire quand vous pensez, je prends sur quelque chose d'extrêmement récent, qui est l'opération Serval, les troupes tchadiennes composées de Toubou, il n'a pas eu beaucoup à les forcer ou à leur suggérer deux fois d'intervenir contre les Touaregs de la Drar des Ivora, avec un enthousiasme, j'allais dire, ancestral, d'aller par rapport à des vieux ennemis. C'est pour ça que ce livre aussi, j'ai souhaité le faire, c'est-à-dire essayer de comprendre une actualité qui est traité comme une écume de l'histoire en général par les médias, et dont il est dommage, ça, je ne veux pas du tout condamner les médias, je pense en particulier aux journalistes de RFI qui ont une vraie connaissance du terrain et qui arrivent à donner des explications justes, mais c'était un peu d'aller dans cette longue histoire.
Oui, tout à fait. Et on voit en lisant votre livre à quel point justement la situation actuelle, c'est un feu, mais qui couvait, quoi, et qui couve depuis des siècles, finalement, parce que vous remontez à la préhistoire et vous montrez qu'il y a à la fois des permanences, mais il y a aussi des faits marquants dont la mémoire s'est perpétuée, soit par la tradition orale, et là on avait donc ce chant Touareg qui date de 1905 et qui, justement, commémore cette bataille de Tite de 1902, soit des choses écrites, parce qu'il y a aussi énormément d'écrits dans le Sahara.
Oui, alors il y a plusieurs moments aussi dans cette longue histoire. Là, je passais très vite, bon, ce n'est pas le sujet, sur cette préhistoire, cette période néolithique particulièrement extraordinaire, et puis tout l'art des peintures et des gravures de cette époque.
Que l'archéologie, d'ailleurs, a découvert assez récemment.
Oui, on les connaissait, elles sont mentionnées par les premiers voyageurs comme Barthes et quelques autres, on les connaissait au 19e, mais en fait, c'est vraiment le travail d'Henri Lotte et de quelques autres qui commencent à les... Y compris avec des... Vous Vous connaissez peut-être cette image qu'on retrouve sur Internet sur la présence des Martiens au Sahara. J'adore, parce que ça, c'est des... Si vous avez encore chez vous le Matin des magiciens de Powels et Bergier, vous voyez, parce que là, ce troisième personnage, vous reconnaîtrez très nettement un scaphandrier venant du cosmos, quoi. C'est très, très net. Bon, c'est tout simplement des danses rituelles avec des masques. J'insiste pas sur la préhistoire, mais sur un point que vous soulignez, sur la très longue durée. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu le centre du Sahara, ces tombeaux, ces tumulus anciens préhistamiques qu'on appelle parfois des tombeaux à trous de serrure, là, on le voit sur cette photo, sont des tombeaux d'avant l'islam. Et en reprenant un texte d'Hérodote sur les Nazamons, Hérodote écrit ceci: pour faire de la divination, donc les populations locales vont aux monuments de leurs ancêtres, ils s'endorment par-dessus après avoir fait des vœux et ils se conforment à ce qu'ils ont vu en songe. Donc Hérodote mentionne ces populations qui vont dormir à proximité des enclos, qui font des rêves et qui ensuite tiennent compte des rêves pour leur vie d'après. Et d'une façon assez étonnante, on retrouve les mêmes textes chez Henri Duverrier ou bien chez Charles de Foucault, qui, traduisant des poèmes ou des textes touareg, mentionne la 2500 ans après la poursuite de ces rituels, en quelque sorte. Alors, qui aujourd'hui sont en voie d'éradication, de disparition, avec une islamisation plus en profondeur, mais qui ont duré jusqu'à une époque extrêmement récente.
Alors, l'islamisation, justement, là aussi, vous éclairez énormément la question de l'islamisation. Par exemple, celle qui s'est produite en 2 ans en Égypte. C'est assez étonnant de voir la rapidité et puis aussi les procédés qui éclairent peut-être aussi ce qui se passe aujourd'hui, cette islamisation violente, brutale. Le Sahara l'a déjà connue il y a longtemps.
Oui, là,
je schématise beaucoup.
J'apporterai une nuance parce que, on sait très bien depuis le Caire combien au VIIe siècle, la progression vers l'Est et de la conquête de la présence militaire de l'islam par rapport à ce qui restait de la présence byzantine a été rapide et importante. Simplement, vraisemblablement, on pense aujourd'hui que les contingents militaires de l'islam était relativement réduit, que les populations lassées de Byzance ont assez bien accepté cette arrivée de l'islam, avec, alors pour ce qui est de l'Afrique du Nord, des résistances en zone berbère, comme la Kaïna et quelques autres. Mais on s'aperçoit quand même que cette islamisation s'est faite beaucoup plus par le commerce, par les lettrés, par les savants que par les armes. C'est pour ça que dans cette carte, nous avons souhaité montrer les grandes voies de caravanes menées par ces marchands musulmans qui ont plus fait pour l'islamisation de cette partie du monde que la conquête. Et voilà quelques exemples de cette islamisation, de cette présence de l'islam. Mais je voulais montrer ce manuscrit, justement. Ça rejoint ce que vous dites. Bon, c'est un manuscrit que j'ai photographié à Chinguetti, en Mauritanie, mais on peut trouver les mêmes à Agadez, à Tombouctou, etc. Et qui montre les lettrés, l'importance de ces savants, de ces cadis, de ces lettrés qui vont vraiment amener l'islam au Sahara. Et j'ai retrouvé une citation de Léon l'Africain, enfin celui que nous appelons, oui, Léon l'Africain, hein, qui est à Saint-Éloi, et qui écrit ceci à propos de Tombouctou, justement, et ce manuscrit, qui est un manuscrit ayant un rapport avec la juridiction sur le divorce, etc. Et Léon l'Africain écrit: « Il y a dans Tombouctou de nombreux juges lettrés et docteurs, tous bien appointés par le roi, il honore les lettres. On vend aussi beaucoup de livres manuscrits qui viennent de Berbérie. » Donc c'est au moment en particulier des pèlerinages vers la Mecque, quand on remontait vers le nord. On revenait toujours du pèlerinage avec énormément de livres. Et Léon l'Africain dit ceci: « On tire plus de bénéfices de cette vente, donc la vente des livres, que de tout le reste des marchandises. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte. L'islam est venu par les presque même des missionnaires à un moment. Alors, ça semble bizarre à propos de l'islam de l'utiliser, mais pourquoi pas. On voit même, alors si on rentrait dans les détails, que la région du Mzab et les Ibadites ont été parmi les premiers. Les Ibadites, qui sont des commerçants, mais qui sont aussi des lettrés, ont été les premiers à convertir un certain nombre de petits royaumes africains à l'islam. Donc c'est vraiment par les caravanes, hein. Vous voyez ici, là-haut, vous connaissez peut-être, sont des miniatures assez connues qui viennent, elles, de Bagdad et qui illustrent ce qu'on appelait les makamats, des récits venant d'Iran. Et entre cette miniature de Bagdad du XIIIe siècle et la photo que j'ai faite relativement récemment de ce groupe avec des chameaux blancs, n'a pas... C'est un univers, on a l'impression que ça n'a pas bougé depuis des siècles, y compris même la façon de blatérer des dromadaires représentés sur la photo et sur la miniature. Et puis, vous n'avez pas de caravane sans l'eau, sans la présence des oasis, et c'est pour ça... Vous parliez d'islamisation, mais ce qui amène aussi l'islam dans cette partie du monde, c'est que l'islam amène des artisans, des puisatiers, des techniques de fogara, enfin pour utiliser le mot, qui viennent d'Iran du reste au départ, et pour les oasis. Vous n'avez pas de caravane si vous n'avez pas un moment de l'eau, de la verdure, et que vous retrouvez, c'est pour ça que j'ai mis ce verset du Coran, mange et boire, rend à ton œil la fraîcheur.
La culture des jardins, hein, qui fait aussi partie de l'islam.
Culture des jardins, encore présente aujourd'hui. Le Sahara, il est, c'est pour ça que ces deux images pour moi sont importantes. C'est le dromadaire et c'est le palmier dattier.
Alors vous avez une page très gourmande justement sur les palmiers
sur les
dattiers
dates.
Et sur les dates, oui. Je l'ai noté. C'est page 135 pour les amateurs de fruits, parce qu'il y a vraiment une énumération très gourmande des différentes variétés de dates.
Ah oui,
de leur nom et de leur
goût.
Voilà, de leur nom et de leur goût. Si vous permettez, je lis un petit passage. Il en existe des dizaines de variétés. Ainsi, en Mauritanie, les maboulas, charnues et juteuses, les ganeb, plus allongées, les petites amars, très foncées, les mraiziga, couleur de miel, et les grosses tigidertes, jaune d'or, etc. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une importance vitale et en même temps voluptueuse dans ces palmiers et dans ces oasis.
Oui, je voulais pas faire cette énumération pour être sentencieux, mais c'était pour montrer aussi l'importance de ces oasis et le fait que cette civilisation, cette islamisation ne serait pas déroulée de la même façon si on n'avait pas, en plus dans le Coran, ce rapport au désert, ce rapport à l'eau, ce rapport à l'oasis. L'islam est une religion... du désert.
Et en même temps, bien sûr, dès l'Antiquité, vous le dites bien, Strabon décrivait la Libye comme une peau de léopard, justement, avec ses oasis.
Oui,
c'est une
jolie expression, un pays en peau de léopard. Ça donne bien l'idée du désert et des oasis un peu... Bon, ça, c'est une fogara dans la région du Gourara à Tiémimoun. Voilà, on passe à autre chose.
Si vous voulez, oui, oui. Et donc, ce que j'ai particulièrement apprécié, moi qui ne suis pas historienne, hein, mais plutôt littéraire, c'est justement l'écriture aussi de votre livre qui s'appelle Le Grand Récit. Le Grand Récit, donc, montre bien que vous écrivez un texte et un texte qui nous emporte, en fait, à travers les siècles, à travers les époques, dans des aventures et aussi en empathie avec des peuples très attachants. Et pas seulement les Touaregs. Il y a aussi tous les peuples de Mauritanie, les pêcheurs, les pasteurs, les chasseurs, même s'il n'en reste pas beaucoup, et d'autres peuples encore dans le reste du Sahara.
Alors, c'est évidemment toujours un problème pour un historien, et je pense aussi à plus forte raison pour un ethnologue, de les différenciations ethniques ou tribales, c'est un sujet dont on s'approche qu'avec énormément de précautions. Donc j'ai tenté de faire attention. Mais, même dans la synthèse et à gros traits, on voit quand même bien que vous avez un ensemble mort, large avec sa langue, avec ses origines, avec les immigrations diverses, un ensemble Touareg central, un ensemble Toubou vers le Tchad, et un ensemble de tribus ou bédouins soudano-égyptiens qui est dans un autre univers. Je déteste, enfin bon, comme tout historien, c'est jamais très simple de séparer les Bretons des Auvergnats et des Alsaciens, donc se livrer à la même chose pour d'autres géographies, c'est toujours délicat. Mais il n'empêche que le monde mort est séparé du monde Touareg par une partie d'un désert quand même difficilement franchissable, même s'il a été. C'est la même chose entre le désert du Ténéré, le monde Touareg et le monde Toubou. On pourrait multiplier les exemples. Et justement, puisqu'on parlait de la vision de l'Occident, je vous montre juste cette image, parce que dans l'histoire de ce monde saharien et de la présence et de l'intérêt que l'Occident y porte, il y a un personnage mythique qui était le roi Mansa Moussa du royaume du Mali au XIVe siècle, qui fait un pèlerinage à la Mecque et resté dans les annales légendaires et de l'Orient et de l'Occident. Le pèlerinage à la Mecque de Mansa Moussa, qui tirait du Soudan des revenus en or absolument considérables, des mines qui existent encore du reste toujours aujourd'hui, et dont les différents chroniqueurs arabes nous racontent le détail du pèlerinage. Alors par exemple, Ibn Khaldoun nous dit que quand ce roi se met en marche vers la Mecque, il s'arrêtera au Caire du reste, il a 100 chameaux chargés de poudre d'or, 60 000 hommes, traverser le désert, vous imaginez, dont 12 000 jeunes esclaves revêtus de tuniques de brocart et de soie du Yémen qui portaient ses effets. Alors, évidemment, c'est avec l'excès des chroniqueurs et des légendes. Mais il n'empêche que la réalité est quand même là, quand on étudie l'histoire économique de la Méditerranée au milieu du XIVe siècle, on s'aperçoit qu'il y a non pas une sorte de crise, mais que tout d'un coup, le prix de l'argent par rapport à l'or augmente, que le lien entre les deux monnaies est complètement tourneboulé, parce que ce souverain amène à la Mecque et vers le Caire effectivement des quantités d'or tout à fait extraordinaires, qu'il va laisser pour partie au Caire et qu'il va laisser à la Mecque pour qu'on construise des maisons capables d'accueillir les pèlerins venus d'Afrique noire. Et ce roi légendaire, il va être présent sur tous les portulans et les cartes occidentales pendant des décennies et des décennies. Là, je vous donne un exemple, ce qu'on appelle l'Atlas catalan, qui montre au centre, alors c'est pas la même carte, mais on imagine les mêmes dessins. Là, on le voit aussi, ce roi, mais on le voit ici plus en détail. Ben, ce roi africain qui est assis sur un tas d'or. C'est ce qu'on aperçoit là, c'est l'or. Alors à l'époque, on croyait du reste que dans les chroniqueurs arabes, on le voit, on ne sait pas très bien d'où venait l'or. Alors on pensait que ça poussait comme les carottes dans les champs. On trouve des textes comme ça. Bon, alors en Occident, on parle de Mansa Moussa, de l'or. Et là, c'est plutôt une question que je me pose. Je me demande du reste si cette légende-là n'a pas donné naissance à l'iconographie du roi mage noir. Parce qu'au début de l'iconographie de la représentation des rois mages, c'est représenté trois âges de la vie. Ils n'ont pas de couleur spécifique. Mais je me demande si la légende de Mansa Moussa n'a pas... Voilà, d'autres exemples. Et alors, justement, cet or venu du Soudan, c'est lui qui va permettre... C'est pour ça que j'ai fait aussi ce document. C'est lui qui va permettre le retour, les premières frappes de l'or en Occident, c'est-à-dire le florin de Florence, le ducat d'or à Venise et le louis d'or en France, au milieu du XIIIe siècle, grâce à cet or venu du Soudan.
Oui, il y a donc des liens extrêmement vastes et inattendus entre des aires culturelles très éloignées, et ça aussi c'est un des intérêts de votre livre, soit sous forme d'hypothèse, soit sous forme de faits historiquement établis. Et par exemple, à ce sujet, vous rapprochez un texte de Tombouctou du XVe siècle qui aborde les principes du bon gouvernement et le plafond, enfin la peinture d'Ambrogio Lorenzetti dans la salle du conseil à Sienne en Italie, les effets du bon et du mauvais gouvernement. Et c'est aussi une peinture qui intéresse énormément Patrick Boucheron pour d'autres raisons, mais on voit bien là une sorte d'histoire comparée qui est tout à fait passionnante et qui vous ouvre peut-être aussi des pistes nouvelles, des projets.
Bien, j'ai l'impression qu'il y a un moment, 13e, 14e et un peu 15e siècle, où le monde méditerranéen a une forme, en dehors des conflits qui peuvent opposer les uns et les autres, une forme de développement économique qui fait qu'on se... Avant la Grande Peste, par exemple, pour l'Occident, qu'on se pose des questions sur, justement, le bon et le mauvais gouvernement, quelle que soit l'ère de culture ou de civilisation dans laquelle on se trouve.
Et donc, je parlais du récit tout à l'heure et du texte, et c'est aussi une écriture extrêmement moderne, d'abord parce qu'elle est documentée avec une actualisation parfaite. Vous citez les dernières découvertes archéologiques, par exemple, et puis bien sûr dans la bibliographie, dans chaque chapitre, il y a une bibliographie extrêmement abondante et complètement actualisée jusqu'à 2014. Et aussi parce que vous avez une posture qui est très moderne. Et justement, je parlais de Patrick Boucheron à l'instant. C'est l'histoire qui se questionne elle-même et qui se dévoile elle-même comme récit, qui ne cache pas qu'on n'a pas accès directement aux faits, mais qu'on passe par un historien qui raconte et qui s'interroge et qui argumente parfois ou bien qui doute. Ça aussi, c'est un aspect très intéressant de cette lecture.
Un historien qui ne doute pas, c'est...
Oui, mais bon, classiquement... On n'entend pas la voix de l'historien dans un ouvrage d'histoire, ou très peu, de manière classique. C'est une posture très nouvelle de l'historiographie que de s'interroger elle-même et surtout de se dévoiler elle-même comme construisant un discours historique.
Oui, je vous remercie. C'est vrai que malgré tout, alors sur la période contemporaine, je le mets aussi, j'ai un certain nombre de convictions, par exemple celle qu'il ne fallait surtout pas intervenir en Libye, par exemple. Par rapport à... J'avais écrit ce chapitre bien avant la situation qui n'a arrêté de se dégrader en Libye. Mais bon, la Libye nous ramène de rester
au
Sahara, au Mali, à la présence européenne, aux explorations, cahiers, etc. Et bien, un personnage qu'on a un peu oublié sur la Mauritanie, qui est Camille Doul. Je voulais juste une phrase qu'il écrit et qui montre bien ce qu'a été la position ou la posture de l'Occident à la fin du 19e et toute une partie du 20e siècle. Et c'est Camille Doul, explorateur. Alors ici, photographié par Nadar. Vous voyez, l'explorateur était à la mode. C'était alors déguisé en plus ou moins en mort bédouin, on ne sait pas quoi. Enfin bon, on pourrait faire tout un article sur cette iconographie un peu bizarroïde. Mais il a énormément de succès après son séjour chez les morts, où il s'est fait passer pour un commerçant arabe, plus ou moins, mais enfin, qui n'était pas originaire du coin.
Turquie, oui.
Enfin bon. C'était un petit peu... Mais il écrit, et ça m'a frappé en retrouvant ce texte dans un numéro de la revue Le Tour du Monde. « Le Sahara magnétise, fascine comme une maîtresse odieuse et adorée. Quand on s'y voit lentement mourir de soif et de fièvre, on le maudit. Et à Paris, devant un bon feu, les pieds dans les pantoufles, on n'a plus d'autre idée que de s'y retrouver en pleine lutte, en plein danger. » C'est un texte typique de ce rapport romantique qu'a eu l'Occident avec le désert. En lui-même, il résume bien d'autres voyageurs.
Oui, tout à fait. La phrase est dans votre livre et on ne peut pas ne pas s'y arrêter. Et en même temps, on voit bien aussi que l'imprudence de Camille Doul, qui ne lui a pas été fatale la première fois, mais a quand même conduit, pour des raisons diplomatiques aussi, pour protéger les relations avec le Maroc, à lui refuser la protection et il a fini assassiné, enfin étranglé, c'est
ça ? Oui, étranglé, enfin on peut dire assassiné, l'étranglement est une forme d'assassinat. Mais oui, c'est vrai qu'il avait un côté amateur déjanté, un petit peu Camille Doul, enfin paix à sa mémoire. Mais à Paris, les autorités voulaient absolument pas subventionner son second. Qui suivait à peu près cet itinéraire, du reste. C'est pas pour ça que je montre ce document, mais qui suivait à peu près cet itinéraire. On considérait d'abord qu'il parlait très mal l'arabe. Alors on peut... se faire passer pour un... Dans le milieu maure où on parle hassania, on peut tenter de dire qu'on parle l'arabe d'un commerçant d'Istanbul. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de zones parcourues par des vrais marchands, et il lui est arrivé ce qui devait lui arriver, donc effectivement assassiné pour son deuxième voyage, mais sans subvention véritable du gouvernement qui se méfiait de ce garçon, bon... Pas à son âme, comme je dis. Et il a écrit de jolies pages quand même sur le Sahara. Juste peut-être ce document qui est intéressant parce qu'il illustre ce qu'on disait au début sur le tourisme au Sahara. Et je parlais des frontières entre l'Algérie et le Soudan, mais ce monde français, à un moment, il est parfois présenté sur des affiches publicitaires comme n'ayant pas de frontières. Par exemple, cette affiche qui date des années 1935-36 montre comment on pouvait se rendre en autocar jusqu'à Fort-Lamy, donc jusqu'au lac Tchad, pour aller chasser sur le Niger. Et chaque point que vous voyez sur cette carte, Reagan, Bidon 5, etc., était une possibilité, était une étape, en quelque sorte, où vous étiez nourri, logé, etc. Et vous aviez, chose qui peut sembler un peu extravagante aujourd'hui, vous aviez deux lignes hebdomadaires qui traversaient le Sahara, en autobus à couchette, avec des points réguliers où vous étiez donc accueillis, etc. Et pour de nombreux fonctionnaires qui allaient en AOF ou en AEF, c'était un mode de transport qui était tout à fait normal. Alors, évidemment, ce sont des choses qui ont un tout petit peu disparu aujourd'hui. Bon, je vais...
Il y a donc beaucoup de choses étonnantes dans ce nouveau livre qui est complété, mais enrichi par un autre album que vous avez publié.
Oui, ben, on a sorti avec la revue L'Histoire, que nous avons actualisée il y a quelques mois, un hors-série destiné à la librairie, avec plusieurs historiens, justement Michel Fouché, qui est le spécialiste des problèmes des frontières, Jean-Pierre Filiu pour ce qui est de l'histoire d'ACMI et des groupes actuels. On a essayé de rassembler un certain nombre d'auteurs avec effectivement là aussi des cartes et des illustrations. Ben voilà un exemple. En fait, ces images sont un peu dans le désordre, mais pour conclure sur le tourisme, vous avez toujours, pour celles et ceux qui connaissent les lieux, à la Sécrème, à l'ermitage du père de Foucault, vous avez toujours un panneau du Touring Club de France de 1939 qui est toujours en place. Et quand vous avez une table d'orientation de lieux touristiques comme ça veut dire qu'il y a eu vraiment un phénomène de tourisme extrêmement serein, j'allais dire. Et en même temps, ce qui est important, et c'est pour ça que c'est aussi un dossier pour les historiens qui mériterait vraiment d'être creusé, le tourisme prouve que vous contrôlez un territoire. Donc le tourisme, dans cette partie du monde, est un véritable enfant de la colonisation. C'est-à-dire que pour montrer que vraiment vous contrôlez, vous installez des tables d'orientation au haut de la Sécrème à 2000 mètres d'altitude, vous montrez que là, vous contrôlez la situation pour tout le Haut-Gard.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Pierre. Vous avez compris, mesdames et messieurs, à quel point ce livre est passionnant, à quel point il ouvre des pistes de réflexion, de connaissances. Parfaitement actualisé, d'une densité. Alors c'est un peu difficile à lire parce que c'est très dense et en même temps c'est tellement bien écrit que c'est un plaisir de lecture.
Merci.